Ensuite, je dirais que mon deuxième axe pédagogique, c'est ma deuxième démarche pédagogique, c'est de faire en sorte que les élèves soient beaucoup en autogestion. C'est-à-dire que moi, je veux absolument me libérer de certaines tâches, que ce soit eux qui les gèrent, pour pouvoir, d'une part, prendre du recul sur ce qui se passe dans la classe, et d'autre part, pour pouvoir mener des dialogues pédagogiques avec eux. Voilà, donc je fais beaucoup de travail par atelier, c'est eux qui arbitrent, c'est eux qui chronomètrent et qui relèvent les performances. Et comme ça, moi, je peux, voilà, avoir des dialogues pédagogiques avec les élèves et prendre aussi beaucoup de recul et observer les élèves. Voilà. Je dirais que ma didactique, elle ne peut pas se passer de mon éthique de prof, et de mon éthique de prof. Et j'essaye toujours de créer dans la classe un esprit d'enthousiasme, un climat d'accueil, où j'accueille la spontanéité des élèves. Alors quelquefois ça déborde, mais voilà, je veux surtout pas faire de morale avec les élèves, surtout pas. J'ai une haine le mot est un peu fort, mais de ce rapport à l'élève qui moralise, qui redresse. J'ai horreur de ça. Voilà, et je me considérais comme prof, comme quelqu'un qui éclaire les qualités des élèves. Voilà, comme un orpailleur. Voilà. Merci.
Pour l'intervention. Je vais passer rapidement la parole à Armel. Voilà. Auteur de nombreux ouvrages sur les didactiques des mathématiques et qui va partager son expérience son approche de la liberté gestion mentale et didactique des mathématiques.
Merci Olivier. Je t'envie Raphaël. Parce que tu te dis, il faut que je... Comment tu as dit qu'ils aient envie de courir plus vite. Moi, je suis professeur de mathématiques. Et courir vite, c'est très souvent vécu par les élèves, c'est courir vers la sortie. Donc, j'ai une mission importante, c'est de leur montrer qu'ils peuvent vivre les mathématiques de façon légère, créative, et personnel. Alors, si vous voulez bien, je vais vous proposer une petite réflexion. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « J'ai enseigné pendant 35 ans et je suis formateur depuis 30 ans. » Alors, bien sûr, vous pouvez vous rendre attentif à mes propos et trier dans mon information les mots « enseignant, formateur ». Vous pouvez aussi avoir compris la successivité des deux jobs. D'abord professeur, ensuite formateur. Mais vous pouvez aussi vous livrer à une activité de réflexion en triant les indices de nombre. Et vous avez 35, vous avez 30, vous pouvez les comparer. Vous dites effectivement, il y a plus d'enseignement que de formateurs. Et puis là, vous vient l'idée de les associer. Et là, vous dites, bon, je vais les additionner. Là, vous vous questionnez sur l'âge de votre interlocuteur. Et vous vient l'idée que peut-être vous pourriez faire une intersection de ces deux périodes. Bref, vous êtes libre de vos gestes mentaux et vous êtes libre du choix de vos liens logiques. Vous pouvez rester sur l'analogie, vous pouvez réunir ces deux quantités, vous pouvez aussi les gérer en intersection. Or, cette liberté qui est la nôtre d'agir des gestes, plutôt les uns que les autres, des liens logiques dont nous pouvons avoir des préférences, sur lesquels nous pouvons avoir des préférences, d'analogie similitude ou d'analogie différence, bien évidemment, eh bien, si nous voulons que nos jeunes exercent leur liberté évocative, déjà il faut que nous la leur reconnaissions. Que nous les accompagnions dans la découverte des moyens évocatifs d'exercice de cette liberté dans le sens de leur présence au monde. Et je trouve que, en tout cas, ça a été mon choix après 20 ans d'enseignement parce que je ne pouvais pas accepter qu'il y ait dans une classe de 30 à 35 élèves de faire le constat au bout d'un mois qu'il y en aurait 10, quelquefois plus, pour qui je ne pourrais rien. C'est absolument insupportable. C'est révoltant. Ce n'est pas tant mon impuissance qui me révoltait, mais l'incapacité qui était la mienne à les sortir de l'échec, bien sûr, mais aussi de la douleur liée à l'échec. Parce que je ne sais pas si vous savez, il n'y a pas pire que les mathématiques pour faire souffrir les enfants. Pas que les enfants, parce que quand je me trouve en formation d'adulte et que je vois monter des émotions à propos d'un exercice de maths, je me dis que quand même ça a laissé des traces. Alors, dans cette courte intervention, je vais vous proposer trois épisodes. Je vais d'abord vous proposer une petite mise en situation mathématique en m'excusant déjà auprès des personnes ici présentes si jamais ça les plonge dans des souvenirs désagréables. Ce n'est pas mon intention. Mon deuxième épisode, ce sera un éclairage sur les obstacles à l'apprentissage, éclairage des didacticiens sur ce qu'ils disent sur les obstacles à l'apprentissage des mathématiques. Et enfin, je terminerai par l'apport de la gestion mentale à la didactique des mathématiques. Alors, petit rappel de la didactique. Vous en connaissez tous la définition, mais je rappelle qu'elle avait deux missions. Je dis bien elle avait, je parle au passé. Elle avait pour mission de réfléchir aux moyens de transmission d'un savoir dans ce qu'il a de spécifique. On n'enseigne pas l'éducation physique ou les sciences économiques et sociales comme on enseigne les mathématiques. Mais elle avait aussi cette didactique pour mission de se préoccuper des moyens d'acquisition de ce même savoir dans ce qu'il a de spécifique. De fait, la didactique s'est arrêtée au concept de sujet épistémique. J'en ai pas trouvé dans mes classes, des sujets épistémiques. Donc la gestion mentale a beaucoup à dire sur cette deuxième mission et nous incite à l'exploration des processus mentaux d'acquisition d'un savoir dans ce qu'il a de spécifique. Alors, je vais vous proposer une petite activité mathématique pour rentrer justement dans cet éclairage. Puis-je demander à chacun d'entre vous d'imaginer un cercle de centre haut. Je vais vous proposer des questions et vous pouvez manifester en levant la main si vous vous sentez concerné par mes propositions. Donc, vous avez peut-être joué le jeu. Si c'est le cas, je vous en remercie. Qui dirait, j'en ai une image. Ok. Votre image est-elle nette? Floue? Vous diriez que c'est plutôt une impression d'image qu'une image? Ou une impression d'espace? Ou peut-être avez-vous eu besoin de penser à un mouvement pour faire exister ce set? Ok. Ou les deux? Vous êtes libre de vos formes évocatives. Je peux avoir le... Bien. Dans ce cercle que vous avez imaginé, pouvez-vous maintenant faire exister un diamètre? Qui y arrive? Tout le monde, magnifique. Encore faut-il savoir ce que c'est qu'un diamètre. Ce diamètre que vous avez fait exister, était-il horizontal, levez la main? Vertical? Oblique? Vous êtes liés? Ah, de l'autre côté, excusez-moi. Maintenant, pouvez-vous... Je devrais pouvoir être... Hein, voilà. Pouvez-vous, sur ce cercle avec son diamètre, maintenant choisir de positionner un troisième point M sur le cercle? Ça va? Vous l'avez mis en haut? En bas, à gauche, à droite. Et bien maintenant, si vous construisez le triangle, vous avez une assurance, il est toujours rectangle. Magnifique. Quelle que soit la place du point sur le cercle, vous aurez toujours un triangle rectangle. Bien, on peut continuer à s'amuser. Maintenant, je reprends, et figurez-vous que ce diamètre s'appelle l'hypoténuse. Pour la petite histoire, s'il y a des personnes intéressées par l'étymologie, hypo signifie dessous, et ténus vient du verbe tendu, parce que c'était autrefois la corde tendue sous l'angle droit. Vous savez que les élèves adorent ce genre d'histoire. surtout si on leur a montré la corde à 13 nœuds. Parce qu'effectivement, la corde à 13 nœuds permet de créer des triangles rectangles et on voit vraiment la corde tendue sous l'angle droit. Bien. Je continue. Pouvez-vous maintenant, toujours sur votre triangle de tête, imaginer construire un carré sur les trois côtés du triangle, mais à l'extérieur du triangle. Pouvez-vous construire à l'extérieur de ce triangle, je vais doucement, hein. À l'extérieur, ça ne marche plus, c'est bon. À l'extérieur de ce triangle, par exemple sur AM, merci. Voilà, un carré là. Ça va ? Et vous faites la même chose sur les trois côtés. Mais il se trouve que la surface verte est exactement la somme des deux autres. Vous venez de redécouvrir le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu. Certes, il existe actuellement des logiciels en mathématiques qui sont extraordinaires. Ils sont utilisés par les enseignants, ils sont bien meilleurs que ce modeste diaporama. Je crains cependant que leur utilisation en classe ne précède la pensée des enfants. Or, la projection devrait être peut-être un constat de ce qui est possible à évoquer. Alors, voici que vous entrez au collège et vous découvrez la définition du cercle. Le cercle est un ensemble de points du plan. Tous ces points sont équidistants du centre, mais ce sont des points sans épaisseur, tels qu'entre deux points du cercle, on puisse encore en mettre une infinité. Voilà la contrainte mathématique. Maintenant, non, c'est pas français, c'est mathématicain. Maintenant, pouvez-vous reprendre votre cercle de tête de tout à l'heure? Vous avez eu la définition. Comment allez-vous adapter votre évocation du cercle de tout à l'heure à cette définition? Alors, les personnes qui ont vu une image du cercle tout à l'heure, cette image était-elle en couleur? Levez la main. Non. Ce trait était-il épais? Pouvez-vous réduire l'épaisseur du trait? Pouvez-vous remplacer ce trait par un ensemble de tout petits points, de poussière de points? Vous avez la liberté de faire évoluer votre cercle de tête pour vous rapprocher de cette définition qui s'impose à vous. Mais vous pouvez aussi conserver votre cercle de tête, mais simplement peut-être mémoriser des mots de la définition et la présence, je dirais simultanée ou proche des deux évocations, fera que la définition en mots vous rapprochera de la définition mathématique du cercle qui était un cercle concret. Nous sommes là face à un problème, c'est le passage d'un objet concret à un objet purement abstrait, ce qu'est le cercle mathématique. Un cercle dessiné n'est pas un cercle mathématique, le cercle tel que je viens de vous le définir n'existe que dans la pensée du mathématicien. Alors, au mieux, les deux objets vont cohabiter. Et là se passe une vraie difficulté en mathématiques, c'est le passage du paramètre 1 au paramètre 2. Mais vous avez compris dans ce que je viens de dire qu'à chaque fois qu'on dessine un cercle, l'enfant ne doit pas se rendre attentif à cette perception. Autrement dit, l'attention du mathématicien n'est pas le passage du perçu à l'évoqué, mais bien la projection sur le perçu d'un évoqué purement abstrait. Donc il y a attention et attention. Lorsque, Raphaël, tu disais, je leur montre le geste, ils vont se rendre attentifs au geste, ils vont sans doute trier des indices qui vont leur permettre de réaliser le geste, eh bien en mathématiques, je devrais projeter une abstraction sur une perception. Donc ceci doit être signifié aux élèves. Tu dis, il faut savoir à quoi on joue. Ben oui, il faut savoir à quoi on joue et quels sont les moyens que l'on va se donner pour ça. Alors, que disent les didacticiens sur les obstacles à l'apprentissage des mathématiques? Alors là, je vais faire référence aux travaux de Guy Brousseau. Guy Brousseau, mais il n'est pas le seul à le faire, met en évidence trois catégories d'obstacles. Des obstacles épistémologiques qui sont liés à l'histoire et à la structure de l'objet d'apprentissage. Il est bien évident que la structure du cercle, qui est une structure abstraite, fait partie de l'histoire des mathématiques, puisque le mathématicien a ce projet de modéliser la réalité, c'est un obstacle. Vous avez aussi des obstacles didactiques qui sont liés au choix, aux méthodes d'enseignement, et bien évidemment des obstacles ontogéniques qui sont liés au développement et à la structure de la pensée de la personne. Alors, évidemment, les difficultés sont observées, évaluées. Les obstacles peuvent être identifiés. Et c'est vrai que les mathématiciens parlent beaucoup d'obstacles épistémologiques. Mais vraiment, je peux vous assurer que la pratique du dialogue pédagogique m'a montré qu'il existait des obstacles ici que je n'avais même pas soupçonnés. Ce que je veux dire très fort ici, c'est que de questionner les élèves sur les présences mentales par rapport à des activités mathématiques va ici éclairer la dimension des obstacles épistémologiques. Parce que, quand on veut dire, l'élève est le premier responsable, le premier accusé, pardon, le premier accusé, c'est les erreurs des élèves, d'ailleurs ils ne sont pas bons en maths, ils ne comprennent rien. Vous avez aussi, bien évidemment, le professeur, bon, il est supposé, formé, il est supposé efficace dans sa façon de faire, mais il est quand même très critiqué. Mais les obstacles épistémologiques, à mon avis, ne sont pas suffisamment creusés. Et là, je crois qu'on a beaucoup de choses à dire. Ce sont les élèves qui ont beaucoup de choses à nous dire sur ces obstacles-là. Mais je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Donc, ce phénomène d'obstacles épistémologiques qui a été mis en évidence par Gaston Bachelard, eh bien, nous allons aller un petit peu plus loin et découvrir ce qui peut se passer pour la langue mathématique. Eh bien, la langue mathématique, elle est profondément polysémique. Un objet mathématique, un symbole, un mot peut avoir plusieurs sens. C'est ainsi que j'ai découvert, je ne suis pas sûre d'en avoir fait le tour, que le signe égal, pardon, il est très sensible hein, ce truc, pardon, oula, il est très susceptible même. Le signe égal, donc, va avoir quatre sens, au moins, en mathématiques. Oui, mais ces sens portent des structures logiques différentes. 3 fois 4 égale 12, vous pouvez le vivre comme une sériation spatio-temporelle, état initial, transformation, état final, mais de fait, en mathématiques, il parle d'une fusion, puisque 12 et 3 fois 4 et 6 fois 2 et la moitié de 24 parlent du même objet mathématique qui est 12. Donc, le signe égal, ici, raconte une fusion. Là, au lycée, dans la fonction, il va raconter une sériation spatio-temporelle. Dans le système métrique, il va raconter une analogie, équivalence. Et enfin, dans l'équation, ça va être un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans le costume X pour que le résultat soit identique des deux côtés? Donc, cette polysémie dans la langue mathématique, c'est vrai pour tout. Nous avons eu un professeur de mathématiques qui est intervenu hier en présentant son travail et il a fait la remarque que les parenthèses en mathématiques avaient au moins trois sens. Et ce sera vrai pour tous les concepts. Mais je voudrais revenir sur quelque chose de plus, risqué encore, c'est que la langue mathématique a emprunté des mots à la langue française en leur attribuant des sens différents. Donc, prenez ce mot-là. Qu'est-ce que vous pouvez évoquer sur ce mot-là? Bien, je ne vais pas vous questionner, mais tout le monde va penser à une direction verticale, ou presque. Donc, cette évocation première, concrète, de la hauteur d'un immeuble, la hauteur d'un arbre, va faire obstacle à la notion de hauteur d'un triangle, par exemple, parce que dans un triangle, il y en aura trois, et il n'y en aura aucune qui sera verticale, si ça se trouve. Donc, le paramètre 1, qui est, porté par des signifiants rencontrés dans un domaine empirique, va prendre dans un domaine scientifique des significations beaucoup plus riches ou plus compliquées d'ailleurs. Donc cette polysémie, je souhaiterais vraiment insister sur le fait que l'obstacle n'est pas lié à l'absence d'une connaissance, mais l'obstacle est lié souvent à la présence d'une connaissance. Le mot porte un signifié ou des signifiés et il va falloir lui attribuer des signifiés différents. Ça va au niveau de l'âge? Je peux encore? Ok. Alors, à part de la gestion mentale à la didactique des mathématiques, eh bien, j'ai lu, relu, re-relu « Comprendre et imaginer ». Et Antoine de la Garandrie avait déjà cette intuition très très tôt, puisqu'il a parlé du signifiant évocatif, du signifiant perceptif, du signifiant évocatif et du signifié porté par la structure évocative en parlant du principe de détachement. Effectivement, le mot auteur a un signifié de structure concrète avec des liens de verticalité et d'horizontalité et il doit se dégager de ce domaine empirique dans lequel il a été rencontré pour changer de structure. Donc vous avez le signifiant perceptif, le mot si vous voulez. Vous avez le signifiant évocatif, je peux en avoir une image, je peux me répéter le mot, mais ce n'est pas la forme évocative qui porte le signifié, c'est bien la structure de l'évocation qui porte le signifié. Et je trouve personnellement qu'il faudrait vraiment que nos dialogues pédagogiques soient plus, je dirais, fouillés pour aller jusqu'à la structure du signifié porté par ce signifiant évocatif. Or, il dit, hein, j'ai repris ce que dit Antoine dans « Comprendre et imaginer », dans quel ensemble empirique scientifique a-t-il été rencontré? Et il ajoute, il appartient souvent à d'autres ensembles relationnels, scientifiques, empiriques, mais il est à détacher, se dépouiller d'une partie de leur sens qu'ils tiennent de l'ensemble où ils se trouvent, et il dit, ce n'est pas à abandonner, je me rappelle, il disait comme une feuille morte, c'est à déplacer. Eh bien, ce sera toujours la préoccupation du mathématicien que d'aller chercher les élèves dans les structures des signifiés qu'ils ont déjà installés. Et France ne va pas me contredire, mais le conflit entre le paramètre 1 et le paramètre 2, c'est l'une des origines de problématiques dans l'apprentissage des mathématiques. Alors, voici un exemple vécu il y a quelques semaines. Ethan me téléphone. Il me dit, j'ai un exercice en maths, je ne comprends rien. Ah bon? Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ben, j'ai un exercice, là je l'ai lu, je ne sais pas ce que je dois faire. Ah bon, je dis, lis-le-moi. Et voici ce qu'il me lit. Quel nombre faut-il associer au nombre 12 pour que leur produit fasse 84? Bon, je suppose que ça ne vous pose pas trop de soucis. Et je dis, alors où est le problème? Il dit, mais on me demande de faire quoi? Je dis, ben, je réfléchis, je dis, mais c'est quoi pour toi un produit? Il me répond, ça sert à laver la vaisselle. Je vous jure que c'est vrai. Il a 13 ans et demi, c'est un très bon élève. Alors je me dis, mais c'est pas possible, tu l'as déjà entendu en classe. Il me dit, non, non, non. Alors on peut douter. Eh bien, me voici en formation. En Bretagne, j'avais un regroupement d'écoles avec beaucoup de professeurs des écoles. Je m'adresse aux professeurs de CE1, CE2, et je leur raconte. Et je dis, maintenant, faites-vous mémoriser cette phrase. Si j'écris 3 que multipliquer, que 4 que multiplier 3 par 12, alors je dis 12 est le produit des deux facteurs. Alors, vous avez vu ce qu'ils évoquent sur produit, je ne vous dis pas ce qu'ils évoquent sur facteur. Mais cette définition s'impose à Ethan. Et là, je demande aux enseignants, faites-vous mémoriser ça? Ils m'ont tous dit non. Alors, bien sûr, Ethan peut, on peut lui faire le reproche de n'avoir pas cette culture, mais je vais en arriver à quelque chose qui me préoccupe beaucoup, c'est le déficit, voire le déni de la mémorisation à l'école. En collège aussi, mais à l'école, assurément. Or, en 98, on a eu un colloque à Villeurbanne, n'est-ce pas? Ça, j'ai repris. Oui, je disais, la langue mathématique peut, mais j'ai envie de dire maintenant, doit être enseignée comme une langue étrangère. Or, une langue étrangère, il faut bien apprendre du vocabulaire. Eh bien, pourquoi pas en mathématiques? Et ici, si je reprends le schéma que j'ai pris tout à l'heure, c'est bon, j'ai fini. Je vous assure que les obstacles ontogéniques ont très souvent pour origine, justement, des obstacles épistémologiques ou des obstacles didactiques. Donc, je terminerai en disant, il est urgent de réhabiliter deux gestes mentaux qui ne sont pas suffisamment pris au sérieux par les didacticiens, c'est la mémorisation et l'imagination créatrice. Or, pas ça, il ne m'aime pas son truc là. Voilà, j'ai tenu à vous citer cette phrase d'Antoine de la Garandrie, parce qu'elle m'a inspirée considérablement quand il disait, je vous laisse lire.
Des trucs.
Et oui. La mémorisation a besoin d'être réhabilitée parce que, selon moi, mémoriser, c'est donner de l'espoir à sa compréhension et du pouvoir à son imagination créatrice. Je vous remercie.
Bravo. Merci beaucoup, pour ce partage. Voilà, moi, ce que je retire de ces trois échanges, ces trois partages, c'est que ce soit en mathématiques, en sciences économiques ou en EPS, partir de ce que l'élève est, de ce qu'il vit, de ce qui est en lui, c'est ça qui permet à l'élève d'accéder à des libérations. Juste, est-ce que l'un de vous a une anecdote à raconter, un fioretti, par rapport à un élève qui aurait vécu une vraie libération, accédé à la liberté, grâce à le geste mental?
Oui.
Claudie
doit être par là. Théo, Claudie. Je ne sais pas si tu te souviens d'une anecdote vécue à Bucarest. Nous étions toutes les deux en formation à Bucarest, en Roumanie, et nous avions un stage qui accueillait des enseignants de français. Il n'y avait que des enseignants, eux d'ailleurs, de français. Et c'était le dernier jour de la formation, et nous voici abordant l'imagination créatrice au service de la réflexion. Et nous donnons un exercice aux stagiaires, exercice compliqué avec un cube, etc. Et c'est donc une énigme, et on leur demande, est-ce possible? Aucun enseignant, mais c'est toujours comme ça, enfin, aucun adulte, ou presque, ne trouvait la solution. Or, il y avait l'époux d'un professeur du groupe qui était journaliste et caméraman. Il filmait donc la séance. Et délicatement, il lève la main et dit, mais madame, vous permettez, je pense que j'ai la solution. Il nous décrit la solution, effectivement, il avait la solution. Et moi, je lui dis, mais monsieur, je ne vous connais pas, mais j'imagine qu'on doit dire de vous que vous avez beaucoup d'imagination. Et il me répond, mais madame, j'ai été emprisonnée pendant 15 ans dans les prisons de Ceausescu, si je n'avais pas eu mon imagination, je serais mort.
Merci.
Alors, j'ai eu de nombreux témoignages, mais l'année dernière, un élève qui est venu me voir presque les larmes aux yeux en me disant « Vous me donnez confiance, monsieur. » Ça, ça témoignait de la qualité du dialogue qu'on a eu ensemble et qui avait été libérant pour lui.
Bon, merci beaucoup. Et voilà, on continue.